France Inter.
Aujourd'hui, question animale, le sujet du siècle, raconté par...
Réjeanne Sénac, directrice de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Je suis celui qui vient des profondeurs. My Lord, vous êtes les grands et les riches. C'est périlleux, vous profitez de la nuit, mais prenez garde, il y a une grande puissance, l'aurore. L'aube ne peut être vaincue. Elle arrivera, elle arrive. Elle a en elle le jet du jour irrésistible. Et qui empêchera cette fronde de jeter le soleil dans le ciel? Le soleil, c'est le droit. Vous, vous êtes le privilège. Ayez peur. Le vrai maître de la maison va frapper à la porte. Quel est le père du privilège? Le hasard. Et quel est son fils? L'abus. Ni le hasard ni l'abus ne sont solides. Ils ont l'un et l'autre un mauvais lendemain. Je viens vous avertir, je viens vous dénoncer votre bonheur. Il est fait du malheur d'autrui. Vous avez tout et ce tout se compose du rien des autres. My Lord, je suis l'avocat désespéré et je plaide la cause perdue. Cette cause, Dieu la regagnera. Moi, je ne suis rien qu'une voix. Le genre humain est une bouche et j'en suis le cri. Vous m'entendrez. Je viens ouvrir devant vous, père d'Angleterre, les grandes assises du peuple, ce souverain qui est le patient, ce condamné qui est le juge. Je plie sous ce que j'ai à dire. Par où commencer? Je ne sais. J'ai ramassé dans la vaste diffusion des souffrances mon énorme plaidoirie éparse. Qu'en faire maintenant? Elle m'accable et je la jette pêle-mêle devant moi. Avais-je prévu ceci? Non. Vous êtes étonné? Moi aussi. Hier, j'étais un battleur. Aujourd'hui, je suis un lord. Or, vous, les maîtres, ce que vous êtes, le savez-vous? Ce que vous faites, le voyez-vous? Non. Ah, tout est terrible. Une nuit de tempête, tout petit, abandonné, orphelin, seul dans la création démesurée. J'ai fait mon entrée dans cette obscurité que vous appelez la société. La première chose que j'ai vue, c'est la loi, sous la forme d'un gibet. La deuxième, c'est la richesse, c'est votre richesse, sous la forme d'une femme morte de froid et de faim. La troisième, c'est l'avenir, sous la forme d'un enfant agonisant. La quatrième, c'est le bon, le vrai et le juste, sous la figure d'un vagabond, n'ayant pour compagnon et pour ami qu'un loup. Victor Hugo, l'homme qui rit. Bonjour, Réjeanne Sénac.
Bonjour.
Ce texte de Victor Hugo, qui a été publié en 1869, figure dans l'introduction de votre livre, Par effraction, paru chez Stock, sous-titré « Rendre visible la question animale ». Pourquoi l'avez-vous choisi ?
Parce que je le trouve d'une grande actualité, d'une grande beauté. Le poétique servant le politique, en l'occurrence. On voit qu'à ce moment-là, c'est une dénonciation des privilèges de l'aristocratie, à la fois en Angleterre, mais bien sûr aussi en France. Et que Gwynplaine se décrit lui-même comme un avocat désespéré.
C'est celui qui parlait, là,
c'est celui
dans
qui
le texte.
Parlait, un avocat désespéré, défiguré, abandonné, maltraité, qui est reconnu comme étant fils d'un lord, et là il se retrouve à dénoncer justement ce bonheur qui est fait du malheur des autres. Il est moqué parce qu'il est ensuite en plus déformé. En fait, il donne à voir ce qu'on ne veut pas regarder en face, c'est-à-dire la dimension illégitime des privilèges. Et ce qui me semblait intéressant, c'était, à travers cette recherche sur les mouvements animalistes, qui se mobilisent pour donner à voir aussi ce qu'on ne veut pas voir, c'est-à-dire les violences envers les animaux non humains et comment notre vie est faite de ce malheur-là, de faire cette recherche. Et j'avais l'impression que j'allais voir les Gwynplaine contemporains, j'allais voir ceux qu'on ne voulait pas regarder en face, ceux dont on se moque. Et pour autant, ce que j'espère, c'est que de la même manière qu'aujourd'hui on lit ce texte en se disant que les privilèges de l'aristocratie ont quand même un peu été remis en cause, de la même manière qu'on puisse se dire, j'espère le plus tôt possible, que ce n'était pas une cause désespérée. Mmh.
C'était très avant-gardiste d'écrire ça d'ailleurs au 19e. D'ailleurs, quel était le lien de Victor Hugo avec les animaux? Vous qui faites ce parallèle aujourd'hui avec la défense du droit des animaux.
Ce qu'il y a d'intéressant chez Victor Hugo, et c'est son évolution bien sûr dans le temps, mais c'est aussi qu'il était impliqué, en particulier, il était impliqué contre la vivisection. Donc, on voit bien, même s'il n'est pas exempt de contradiction, Victor Hugo, mais qu'il a vraiment une sensibilité aussi sur ce sujet. Donc, il interroge nos cohérences et nos incohérences dans tous les domaines. Et d'ailleurs, ça m'a aussi fait penser à Monseigneur Bienvenu des Misérables. Voilà, et vraiment regarder le plus vulnérable, nos incohérences. Et là-dessus, bien sûr, c'était un ami de Louise Michel, hein, Victor Hugo. Il a eu une correspondance assez longue avec Louise Michel. Et on voit que Louise Michel qui explique que elle, sa prise de conscience fondamentale des violences des humains, c'est quand elle voyait les violences des humains envers les animaux. Donc je trouve intéressant, et elle, bien sûr, elle le voyait de manière imbriquée par rapport aux violences qui sont faites vis-à-vis des plus vulnérables que sont les femmes, mais pas seulement.
Aujourd'hui, au XXIe siècle, malgré des victoires, quand même, il y en a, hein, comme la reconnaissance des animaux comme des êtres doués de sensibilité. C'était il y a 10 ans tout juste dans le Code civil. Les résistances restent fortes. Comment, justement, Réjeanne Sénac, vous expliquez que la question animale soit encore considérée comme marginale aujourd'hui dans le débat public ?
Parce que c'est très dérangeant de la manière que Gwynplaine et nous renvoie notre déformation, notre monstruosité. Celles et ceux qui lèvent le voile ça c'était une expression qui avait utilisé Olivier Falorni dans la commission d'enquête sur les conditions d'abattage suite aux vidéos de L214.
Oui, absolument, on en reparlera tout à l'heure, qui ont joué un rôle majeur.
Ouais. Il disait ça lève un voile sur une omerta, quelque chose qu'on ne veut pas voir. Et donc c'est quand même très dérangeant de se dire que c'est un référent absent, la question animale, pour reprendre Derrida, alors que 98% de la population française n'est pas végétarienne, donc mange ce qu'on appelle de la viande ou du poisson, que la moitié des foyers, plus de la moitié des foyers ont des animaux dits domestiques. Donc en fait, il y a une forme de paradoxe énorme parce que on cohabite, on vit, notre vie est faite du fait de se vêtir d'animaux, de les manger, de se divertir avec eux. Et dans le même moment, on considère comme naturel, normal et nécessaire, c'est les trois N de Mélanie Joy, de vivre de leur mort ou en tout cas de les considérer comme des instruments, comme des biens.
D'ailleurs, il y a des associations qui mènent des actions militantes, qui jouent d'ailleurs de ces paradoxes, avec beaucoup d'humour d'ailleurs aussi, pour passer certains messages. Vous en citez deux comme action, une dégustation de foie gras de chat, ou bien proposer de la viande de chien 100% bio, garantie sans OGM et issue de l'élevage en plein air. Ça dit quoi finalement ?
Ça dit, donc j'ai suivi moi un certain nombre de ces actions, ça dit bien qu'il y a une forme de contradiction très forte entre le fait d'aimer, de dire qu'on aime en particulier les animaux domestiques, on aime les chiens. C'est un titre aussi de Mélanie Joy. Comment est-ce qu'on peut aimer les chiens, manger les cochons et se vêtir des vaches ? Donc là, y a de la même manière que plus de 80% de la population se dit contre la maltraitance animale.
Et contre l'élevage intensif.
Et contre l'élevage intensif. Et dans le même moment, 8 animaux abattus sur 10 en France proviennent des élevages intensifs. Donc, on voit bien que Carole Adams, qui est connue en particulier pour son ouvrage « Politique sexuelle de la viande », elle parle du moment où elle a pris conscience de ses contradictions. C'était le jour où son cheval décède. Et donc, elle est très proche de lui, elle est très très malheureuse. Et elle se voit elle-même en train de manger un hamburger le soir. Et là, sa dissonance cognitive saute. Et là, elle se dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma manière d'appréhender la sensibilité de ces êtres que sont les animaux des autres espèces. Et elle décide de se mettre en cohérence. Donc on voit bien là qu'il y a quelque chose qui est à la fois de l'ordre des cohérences individuelle, mais aussi avant tout collective. C'est avant tout un système de production qui est imbriqué dans un système de consommation. Mais un système de production avec, on le sait, des logiques de lobby agroalimentaire très fort, mais aussi une vision anthropologique où, comme le dit Barthes dans Mythologie, on associe ce que c'est qu'être français au steak frites, par exemple, ou ce que c'est qu'être un homme. Donc il y a vraiment des dimensions qui sont pas seulement, qui sont fortement économiques, mais aussi anthropologiques, sociales, et tout ça est imbriqué.
Comment, Réjeanne Sénac, les mobilisations antispécistes se distinguent de mouvements animalistes plus anciens ? Qu'est-ce que ça raconte dans cette histoire, justement, des mouvements ?
Alors, Dans Mouvement Animaliste, on va regrouper toutes celles et tous ceux qui se mobilisent contre les violences envers les animaux, de différentes manières, en fonction de type d'animaux. L'antispécisme, il y a vraiment l'idée qu'il est légitime de considérer que l'espèce humaine est une espèce qui, par sa supériorité, souvent associée au fait qu'on est en capacité de raisonner ou de distinguer le juste et l'injuste, peut se mettre en haut de la pyramide et donc justifier toute forme d'utilisation des autres espèces. Et donc, il y a l'idée que les individus sentients, c'est-à-dire qui sont en capacité de ressentir les émotions, dont la souffrance, et donc il y a un système nerveux, parce qu'on nous fait souvent le coup du cri de la carotte, hein, mais la carotte n'a pas de système nerveux. Donc ceux qui ont un système nerveux ressentent de la souffrance, ont un intérêt à vivre, et qu'il faut donc prendre en compte leur intérêt. Donc les antispécistes sont dans une logique, on distingue des fois les welfaristes et les abolitionnistes, donc ceux qui vont plutôt travailler à améliorer le bien-être, en tout cas lutter contre la maltraitance, et ceux qui ont pour horizon, et les antispécistes ont cet horizon-là, même s'ils passent souvent par des étapes où ils travaillent sur le bien-être animal, l'horizon, c'est de remettre en cause toute forme d'exploitation des animaux non humains.
En novembre 2023, l'association L214 dévoilait une enquête, une nouvelle enquête, hein, filmée dans un élevage laitier du Finistère. Selon les lanceurs d'alerte, les animaux y étaient détenus dans des conditions déplorables. On réécoute une archive de l'époque.
Tout commence avec une alerte qu'on reçoit le 20 novembre dernier. Une personne anonyme nous appelle et nous dit qu'elle connaît un élevage en piteux état avec des vaches en grande souffrance. Cet élevage se situerait en Bretagne, dans le Finistère.
Dans une vidéo diffusée par l'association L214, on découvre un élevage laitier aux conditions insalubres.
C'est ici, dans cet élevage laitier de Plouzévédé, que les images de L214 ont été tournées.
Je suis totalement d'accord avec vous, les images, c'est totalement scandaleux.
Bien sûr, c'est de la barbarie.
C'est pas possible, ça peut pas durer.
Cette situation est absolument inacceptable pour les animaux, donc on porte plainte auprès du tribunal de Brest pour mauvais traitement et sévices graves.
Voilà, et suite à la diffusion de ces images, une plainte avait été déposée l'année dernière. Réjeanne Sénac, ces actions-là, on le disait tout à l'heure rapidement, mais elles ont joué un rôle très très important, par exemple dans la mise au point de commissions parlementaires.
Tout à fait. Et là, c'est intéressant parce que ça pose plus largement la question de la diversité tactique et de la complémentarité des répertoires d'action, puisque c'est à partir souvent de désobéissance civile, c'est-à-dire qu'ils filment sans avoir l'autorisation des propriétaires, que ce soit des abattoirs ou des élevages intensifs. Et à entendre un député qui salue le courage et l'importance de ces actions pour être, il les a qualifiés de lanceurs d'alerte, pour permettre en fait que, si ce n'est que la réglementation soit appliquée, hein, puisque dans le cadre de cette commission d'enquête qui a eu lieu en 2016, il y a en particulier comme proposition de mettre en place des vidéosurveillances pour que la réglementation qui consiste en particulier à étourdir les animaux pour qu'ils ne souffrent pas au moment de l'abattage, soit réellement mise en œuvre. Donc là, on voit bien que, étant donné qu'il n'y a pas de possibilité de surveillance autrement, les lanceurs d'alerte sont ceux qui font de la désobéissance civile et qui permettent aussi de faire évoluer l'application des lois et leur fortification.
Est-ce que ça raconte le titre de votre livre, Par effraction, justement ? Le fait de pousser les fenêtres, de les briser et d'entrer justement dans des lieux comme ça et de pouvoir les filmer.
Absolument, et par effraction, ça dit à la fois la nécessité, hein, de donner à voir ce qu'on cache, mais aussi le fait que, par exemple, Victor Durand-Lepeuch, qui fait le podcast Comme un poisson dans l'eau, me dit, en fait, ça devrait être un devoir, de la même manière que quand on voit un chien dans une voiture qui est en train de souffrir, qu'on casse la fenêtre pour lui permettre de respirer. Donc il y a vraiment cette idée qu'il y a une nécessité de voir. C'est un peu le mythe de la caverne aussi, hein, avec la dimension qui est celle, pas seulement d'avoir des gestes esthétiques, hein, mais vraiment de réfléchir à notre structuration, à la dimension systémique du nécropouvoir. C'est-à-dire qu'on est encore dans une société où le pouvoir des humains et de laisser vivre ou de tuer les animaux non humains. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces mises à mort qui ne sont pas des crimes.
Donc il y a aussi la force symbolique de l'effraction, effectivement. On va voir dans un instant avec vous, Réjeanne Sénac, quels sont les liens entre l'antispécisme et l'écologie, entre autres, pour comprendre comment ces luttes parfois en tension peuvent aussi se rencontrer, voire se réconcilier. Oui. Et puis on attend, amis auditeurs et auditrices, vos messages sur la page de La Terre au Carré, vos messages sur nos réseaux sociaux et vos messages vocaux sur l'application Radio France.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Si on regarde l'évolution de la prise de conscience des libertés, du progrès social, etc., ça s'est toujours accompagné chez les grands leaders syndicalistes, ceux qui ont lutté contre l'esclavage, etc., d'un souci de l'animal, c'est-à-dire de tous les êtres vivants. Et on ne peut pas opposer les uns aux autres. Et je trouve que l'argument qui consiste à dire il faut s'occuper des humains et donc laissons les animaux souffrir n'importe comment, on peut torturer des animaux, on peut les traiter comme des objets, pour moi ça ne tient absolument pas la route. Je pense que notre cœur est assez grand pour avoir de la compassion et pour les humains qui souffrent et pour les animaux qui souffrent. Donc c'est un faux débat, ça. Et je crois que notre société est aujourd'hui prête à comprendre qu'on ne peut plus considérer un animal comme un objet.
Ça, c'est la voix de Frédéric Lenoir. C'était en 2013, donc 2 ans avant la reconnaissance précisément des animaux comme des êtres doués de sensibilité dans le Code civil en 2015. Donc on sort de l'état d'objet pour arriver à autre chose. Ça a été quand même une date importante, ça, Réjeanne Sénac, dans l'histoire de la question animale.
Alors, il y avait déjà eu 1976 avec le Code rural, où est tiré d'ailleurs, c'est l'article 214.1, d'où est tiré le nom de L214, qui a pour objectif de montrer que déjà on n'applique pas la loi, puisque dès 1976, il est noté que les propriétaires d'animaux doivent les traiter en fonction des impératifs biologiques liés à leur espèce. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a eu 2015 qui a été un moment important, même si le statut juridique des animaux non humains, il y a pas mal de travaux autour de ça, n'est pas encore complètement cohérent. Ce qu'il y a d'intéressant dans l'intervention, là, c'est de dire que très souvent, mais c'est déjà vrai, c'est vrai entre les causes, entre les luttes, il y a cette impression qu'il faut choisir. Oui. D'autant plus, et on hiérarchise, on a longtemps hiérarchisé lutte des sexes, lutte des classes en particulier, d'autant plus que historiquement, pour exclure des groupes humains de la communauté politique et juridique, on les a animalisés. Donc il y a cette peur que quand on est comparé avec des animaux non humains, les femmes, les personnes racisées en particulier, ou les personnes non valides, ou en situation de handicap, il y a un risque de régression ou de diversion. Donc c'est intéressant de voir que par contre, les travaux de psychologues et d'autres montrent que ce sont les mêmes personnes qui s'interrogent sur la cohérence et l'incohérence vis-à-vis de notre comportement, vis-à-vis des animaux, et vis-à-vis des groupes humains les plus vulnérables. Donc en fait, il n'y a pas de contradiction, il y a une synergie.
Au contraire, il peut y avoir une convergence des luttes, très claire. Et c'est ce que vous dites, c'est ce que vous expliquez. Alors, entre l'écologie et l'antispécisme d'une part, mais effectivement, entre le féminisme, les personnes racisées ou les personnes handicapées.
Tout à fait. Il y a vraiment à la fois une imbrication dans les dominations, mais aussi dans les émancipations. Et ça, c'est un élément qui est tout à fait fondamental, mais qui, et je pense encore en phase de progrès, ouais. En particulier dans le monde progressiste, la gauche et parmi les écologistes. C'est-à-dire que, d'ailleurs, moi je trouve que c'est intéressant le terme de vivant, mais qu'il peut avoir des éléments assez faibles. Parce qu'il ne permet pas de voir qu'il faut qu'on remette en cause un système de mort.
Qui est omniprésent dans la question animale.
Tout à fait. Et qu'on arrive, et ça rebondit sur Gwynplaine, à remettre en cause les privilèges, puisqu'on ne peut être que des alliés et pas des premiers concernés sur ce sujet. Et donc, ça, c'est un vrai point. Il y a Chico Mendes, cet activiste écologiste, on connaît son expression une écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Moi, j'ai envie de poser comme question, qu'est-ce qu'une écologie sans prendre en compte la question animale et en particulier donc la lutte contre les violences envers les animaux non humains. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est quoi ? C'est un safari, c'est un zoo, c'est une nature morte. Donc là, je pense que c'est encore un point qui a interrogé.
Ouais, en tout cas, vous citez une députée, Marie-Charlotte Garin, qui affirme que l'écologie, c'est une porte d'entrée vers l'antispécisme. Donc le lien se fait pas naturellement, mais il y a une ouverture.
Donc on voit bien que les élevages polluent, aussi bien en termes d'émissions à effet de serre, de gaz à effet de serre, d'utilisation de l'eau. Donc on peut avoir cette porte d'entrée-là qui est encore un peu aujourd'hui l'éléphant dans la pièce. Hein. C'est-à-dire qu'on va dénoncer souvent les élevages intensifs, hein, mais on ne va pas forcément s'interroger sur la viabilité, aussi bien écologique que antispéciste, des élevages de manière générale. Mais c'est vrai que c'est une porte d'entrée, de la même manière que la santé, et en particulier la santé des plus vulnérables, mais pas seulement, est aussi une porte d'entrée. Donc il y a différentes portes d'entrée. Là, on voit qu'il peut y avoir une synergie des luttes. Et de la même manière que toutes les autres causes, il y a aussi une manière un peu spécifique de poser la question quand on porte de manière frontale et première la question animale. Moi, beaucoup des personnes que j'ai interviewées me disent ils sont souvent sur plein de luttes à la fois, ouais. Mais s'ils privilégient cette lutte, c'est parce qu'ils ont conscience que c'est là où il manque encore un peu de monde au niveau du bataillon. Et donc, il faut pousser pour faire comprendre qu'on ne peut pas remettre en cause les violences, on ne peut pas remettre en cause les injustices, on ne peut pas dessiner un monde qui soit un monde où on prend en compte les intérêts de chacune et de chacun. Parler d'amour, parler d'espoir, si on continue à maltraiter les animaux. On cite souvent Pythagore qui dit « Tant qu'on tuera des animaux, les hommes s'entretueront ». Ou Tolstoï qui disait « Tant que les abattoirs existent, la violence existera entre humains ».
Frédéric Lenoir disait tout à l'heure dans l'extrait qu'on a entendu que finalement, à chaque victoire sociétale, il y a eu aussi le souci de l'animal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que donc, du coup, on peut espérer aussi sur certains fronts que la question animale puisse avancer en même temps que d'autres causes ?
Alors, on peut voir, et là on est en train de vivre ça d'ailleurs, par exemple sur les violences envers les animaux dits domestiques, on se rend compte que ça peut être un indicateur de violence plus largement dans le foyer vis-à-vis des femmes, des enfants. Je trouve intéressant de comprendre que les violences sont systémiques, mais dans le même moment, je pense qu'il serait important de ne pas avoir à conditionner notre mobilisation vis-à-vis de la violence envers les animaux non humains au fait que c'est productif, c'est performant pour les humains. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée que c'est toujours un peu la variable liée, la variable secondaire, comme ça a été le cas longtemps pour les femmes. Donc on est encore dans une logique lutte principale, ouais. Lutte secondaire. On n'est pas dans une égalité de considération des intérêts.
Est-ce qu'il y a un backlash aujourd'hui autour de la question animale, comme on peut le constater autour de l'écologie ou du féminisme d'ailleurs ?
Oui, clairement, on voit bien qu'il y a...
C'est un retour de bâton. Hein,
tout à fait, il y a des résistances, on le voit à travers la loi du plomb, dont on a peu questionné les articles...
Sur l'élevage intensif.
Qui concernent l'élevage intensif. On le voit aussi au niveau européen, où donc là, il y avait eu un référendum citoyen qui demandait la fin des élevages en cage. C'était des promesses, d'ailleurs, qui ne sont pas tenues. Donc, en effet, on voit bien que là, il y a un raidissement, à la fois dans l'évolution juridique, mais aussi dans la pénalisation des militants eux-mêmes, hein, qui se mobilisent avec la fameuse cellule Déméter, même ouais. Si sa validité juridique est remise en cause et a été remise en cause. Donc on est dans une position idéologique qu'on peut entendre si on veut être lucidement joyeux comme le signe qu'on a avancé, c'est-à-dire que les retours en arrière, les résistances, c'est parce qu'il y a eu des avancées. Il y a eu en particulier la loi de novembre 2021 luttant contre la maltraitance animale, interdisant en particulier les animaux dans les cirques, la vente d'animaux. Donc, on peut se dire que c'est parce qu'il y a eu des avancées, mais en même temps, on voit bien tout le chemin qu'il y a encore à parcourir.
Un exemple d'action directe de la part de militants antispécistes, parce que c'est aussi une enquête, hein, vous avez rencontré beaucoup de monde pour cet ouvrage Par effraction, Réjeanne Sénac, c'était dans Complément d'enquête, là, un exemple en 2018.
Bonsoir tout le monde, on va juste répéter un petit peu le déroulement de l'action comme on fait d'habitude.
L'avantage de cet abattoir-là, c'est qu'il n'y a aucun obstacle.
Une fois qu'on arrive sur place, tout le monde descend de la voiture. Hein, voilà, ça va durer à peine 3 minutes. Une fois que vous avez vos animaux, vous savez, vous retournez à la voiture, vous chargez, vous montez dans la voiture, vous attendez votre conducteur et vous partez. On ne s'attend pas et vous allez le plus vite possible de l'autre côté de la frontière.
C'est bon ?
Vous vous dites que c'est de la politique, mais beaucoup pensent que c'est de la délinquance.
Ben non, on l'envisage pas comme ça. La loi spéciste l'envisagerait comme ça, mais comme il fut un temps, elle pensait que les personnes de couleur n'avaient pas d'âme, que les personnes de couleur étaient des biens. Et ben aujourd'hui, elle pense que les animaux sont des biens. Peut-être que demain, ça changera. Et on l'espère. En tout cas, il faut des gens qui défrichent ces sujets-là. Donc, il faut de l'action directe pour ça.
Réjeanne Sénac, vous connaissez d'ailleurs l'autrice de ces propos.
C'est Tiffaine Lagarde de 269 Libération Animale.
Vous avez recueilli la parole de nombreux acteurs de terrain. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé d'ailleurs dans leur récit en général ?
c'est en quoi l'intime est politique. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un parcours qui commence souvent par un choc politique. Moi, j'appelle ça un choc politique et pas un choc moral. Donc, ce moment où on ouvre la communauté d'empathie aux, ouais, aux animaux non humains.
Pour vous, ça a été le souvenir de votre lapin, hein, vous l'expliquez. Hein.
Oui.
Ça a été votre choc politique.
Tout à fait. Donc, moi, je viens d'un milieu rural. Et c'est vrai que mes grands-parents, qui étaient vraiment des êtres très, très gentils, que j'aimais beaucoup, avaient des lapins dans des cages. Hein, mmh. Et moi, d'ailleurs, je ne voyais pas le problème, je m'amusais avec un, et je croyais que c'était mon ami Pompon, hein, et je le remettais dans sa cage tous les soirs, et un matin, je ne l'ai plus retrouvé, j'ai essayé de comprendre, mes grands-parents n'ont même pas cherché à me faire un récit imaginaire, j'ai donc compris que je l'avais mangé, et là, ça m'a semblé complètement terrifiant sur ce que ça disait de mes grands-parents, de nous, de manière plus large. Et depuis, je vois des bouts de cadavres arriver à mon assiette, et je ne fais plus de dissonance, ça a troublé le silence de ma viande. Mmh. Entre les brebis que je voyais paître, moi je suis des Pyrénées, et les côtelettes que pourtant j'adorais. Donc il y a vraiment cette dimension que l'intime est politique.
Le choc intime, hein, qui devient un choc politique.
Un choc, hein, politique, puisque là, ce qui est posé comme question, c'est le juste et l'injuste. Et donc d'emblée aussi, ces personnes-là, et ça c'est très intéressant, sont dans un questionnement systémique. Hein, et la difficulté d'ailleurs de se mettre en cohérence individuellement, parce qu'il y a un jugement, même si vous ne cherchez pas à convertir, on devient des Cassandres ou des Perséphones, hein, y a un jugement très fort par nos choix de vie. Et dans le même moment, et tous ceux qui sont impliqués, que j'interview parce qu'ils sont responsables d'assaut et activistes, ouais, ils disent, on ne dénonce pas les ouvriers d'abattoirs, on ne dénonce pas les éleveurs, on dénonce un système cannibale et violent dont ces salariés sont les premières victimes.
Et il y a une intensité sensorielle, hein, des témoignages.
Tout
ça,
à fait.
Ça, vous l'expliquez aussi. Hein.
Tout à fait, puisque c'est du vécu à 360 degrés. Hein. C'est des personnes qui parlent à la fois du regard des animaux non humains, soit quand ils ont assisté à leur abattage, ouais, soit quand ils cohabitent au contraire avec eux, ceux qui rachètent ces moments-là. Jean-Luc Dobbe, un ancien enquêteur dans les abattoirs, me raconte qu'il se rachète, il a l'impression de se racheter en ayant un refuge. Donc voilà, il y a vraiment cette dimension-là qui est très forte.
Comment on peut traduire cette réflexion dans une manière nouvelle d'habiter la Terre ? On va en parler dans un instant, pour redéfinir la communauté interespèce. Réjeanne Sénac, c'est vraiment au cœur de votre ouvrage Par effraction. Et puis, vous pouvez bien sûr nous rejoindre, amis auditeurs et auditrices, avec vos messages sur la page de La Terre au Carré et vos messages vocaux sur l'application Radio France.
France Inter. La Terre au Carré.
D'après l'agence Harris Interactive pour le réseau Action Climat, 53% des Français affirment avoir réduit leur consommation depuis 3 ans.
C'est les raisons économiques, la santé, l'environnement et le bien-être animal. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde des études qui s'intéressent à la raison principale qui explique la baisse de la consommation de viande, on se rend compte que c'est la santé qui est le plus souvent mise en avant.
Mais dans les faits, cette baisse n'est pas si évidente. En 2023, en moyenne, nous avons mangé 83 kg de viande, une baisse d'à peine 3% en 5 ans. Pour des raisons de santé et d'environnement, la France s'est donné comme objectif de réduire notre consommation de 20% d'ici 2050.
Voilà un sondage qui était commenté en mars dernier sur BFM. Réjeanne Sénac, vous qui êtes chercheuse au CNRS et donc autrice de ce livre Par effraction chez Stock, rendre visible la question animale. Un commentaire d'ailleurs sur ces chiffres, sur la baisse quand même de la consommation de viande en France.
Une baisse très faible, hein, 3%. Ouais. C'est surtout, on consomme d'autres types de viande, hein, moins de viande rouge, plus de viande blanche, plus de viande transformée. Ce qui est intéressant, c'est que sans aucun doute, la honte a un peu changé de camp et commence en tout cas. Et d'ailleurs, ce que je retiens de mon terrain, c'est que les personnes, en particulier les passants, disaient aux activistes merci, bon courage, mais quand même, décalez-vous. Donc en fait, on est contre la maltraitance animale tant qu'on peut continuer à pas vraiment complètement changer son mode de vie. Et c'est vrai qu'à la décharge des individus, c'est compliqué structurellement. Les cantines, par exemple, ou tout ce qui est accès au collectif, ou notre rapport à la socialisation, à la fête, est encore très carné.
On a vu les combats pour une journée végétarienne dans les cantines, voilà, hein, ce que ça a donné, hein, comme débat de société. Hein.
Donc c'est pas simple, hein, mais on voit qu'il y a une intention, en tout cas, ouais, de changer de mode de vie.
Vous parlez d'un contrat social brisé. Qu'est-ce que l'antispécisme change justement dans notre conception même de la communauté politique alors ?
Alors, c'est intéressant parce qu'on voit bien que notre communauté politique qu'on a idéalisée a été fondée sur des exclusions, sur des dominations des femmes, des personnes racisées, voilà, d'énormément de populations. Pour autant, on a une idéalisation. Donc, on voit bien qu'ils ont été inclus, alors sans pour autant qu'il y ait une totale égalité hein, de traitement, mais et que là. J'espère qu'on en est à se poser la question de nos incohérences vis-à-vis des animaux non humains, en sachant qu'on est encore, pour reprendre Achim Mbembe, dans une logique de nécropouvoir. Et si on veut des chiffres, hein, il y a 3,2 millions d'animaux terrestres abattus en France par jour, 2050 milliards par an, ce qui montre qu'on est dans quelque chose qui est encore très massif.
Mais la démocratie interespèce ou la communauté terrestre, pour citer justement Achim Mbembe, est-ce que c'est un horizon possible? Selon vous, à court terme ?
C'est un horizon souhaitable. Hein. Et je pense que cette idée de zoopolitique, c'est-à-dire de penser un vivre ensemble qui intègre les différentes espèces, prendre en considération leurs intérêts, que ce soit des animaux dits liminaires, hein, ceux qui vivent autour de nous, avec nous, en ville, les animaux dits domestiques ou les animaux dits sauvages. Les travaux de Kim Lika et de Donaldson là-dessus sont passionnants. Donc ça nous complique la vie, mais comme la démocratie, c'est un processus qui est compliqué et c'est ça qui est stimulant et en tout cas quand
mais
vous
ça ressemblerait à quoi une démocratie interespèce précisément alors?
Mais ça ressemblerait à ce qui est fait, par exemple, un peu. Moi, j'ai interviewé Dushka Markovitch, conseillère à la mairie de Paris. C'est-à-dire se poser la question et se dire, on ne va pas exterminer les rats, mais on va cohabiter avec les surmulots. Et on va changer notre rapport aux déchets, aux égouts. On va faire en sorte qu'il y ait des pigeonniers pour stériliser les pigeons. On va se poser la question de, est-ce qu'on peut ou pas adopter un animal dit domestique? Voilà, ça ressemblerait à ça. Ça c'est déjà en cours.
Ouais. Réjeanne Sénac, vous citez un souvenir d'enfance dans les traditions locales, c'est le tue-cochon, qui cimentait aussi un village, une communauté humaine. Comment on peut transformer ces rituels? Alors, je ne sais pas s'ils ont lieu encore aujourd'hui de la même manière, mais sans perdre le lien social qui est aussi essentiel.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit bien que des moments festifs sont associés à des mises à mort, comme dit Derrida, des mises à mort qui ne sont pas des crimes. Hein. Et on peut parler par exemple de la corrida aussi, avec le fait que là, une proposition de loi pour interdire la corrida aux moins de 16 ans n'est pas passé, hein, donc on voit bien qu'il y a encore un attachement et cette idée que c'est associé à la tradition.
Ouais.
Moi, je pense qu'on est dans un moment où associer la tradition, la normalité à de la violence et à interroger fortement. Et donc, on peut tout à fait être dans des moments de joie partagée, et ce que font beaucoup d'activistes, mais autour de la vie, autour de moments qui soient des moments festifs, qui se fassent l'éloge de la vie.
Donc, la convivialité peut exister sans le sacrifice animal.
Bien entendu.
Il faut réfléchir à inventer peut-être d'autres choses. On passe aux questions parce qu'elles sont très nombreuses pour vous, Réjeanne Sénac. Allez, un premier message de François qui nous dit « L'antispécisme, c'est ne pas placer l'homme au-dessus des autres animaux, mais n'est-ce pas le considérer comme en dehors du monde animal omnivore auquel il appartient ?»
Alors ça, c'est intéressant parce que l'humain se caractérise justement comme le fait d'être sans cesse en mouvement et on sait très bien qu'il y a une imbrication hein, entre culture et nature, et qu'on est les premiers, et je pense qu'il ne le remettra pas en cause, à être très content des progrès scientifiques, voilà, de toute l'évolution qu'on peut porter. Donc, cette capacité à être en critique vis-à-vis de notre comportement et nos incohérences, et ce qui nous définit. Donc là-dessus, je ne vois pas pourquoi ça ferait exception.
On va écouter le message vocal de Marie-Paul.
Marie-Paul, Paris. J'écoute votre émission sur les animaux et la maltraitance animale. Et je me dis que le prochain combat ne serait-ce pas de créer quand même aussi la possibilité d'être puni pour un délit de non-assistance à animaux, à un animal en danger. Merci et bravo pour votre émission.
Réjeanne Sénac, est-ce que ce n'est pas déjà un peu le cas?
Oui, c'est déjà le cas. Par contre, ce que pose cette question, c'est la question de la mise en œuvre, hein, la mise en œuvre des réglementations, des lois. Mm-hmm. Et on voit bien qu'on a un rapport très différencié entre des principes qu'on juge essentiels ou des lois qu'on juge essentielles, et là, on va avoir des sanctions très fortes, et puis d'autres qui sont des espèces de droits hors la loi, c'est-à-dire que le droit, c'est la norme collective assortie d'une sanction pour qu'elle soit vraiment efficiente. Et là, sur ces sujets, il y a un vrai une vraie nécessité de se donner les moyens de les appliquer.
Un témoignage de Fabien qui nous écrit « Je suis un petit paysan éleveur. Oui, L214 a permis de faire progresser la cause animale dans les élevages et dans les abattoirs. Mais attention, si la finalité de cela est la fermeture des petits abattoirs de proximité, alors c'est nous, petits éleveurs très soucieux de la cause animale et environnementale, qui en pâtissons. Alors que les gros élevages industriels, eux, s'en sortiront toujours car ils sont plus solides financièrement. Est-ce ce modèle agricole que l'on veut ? Qu'est-ce que vous lui répondez, Réjeanne Sénac ?
Déjà, je trouve que c'est intéressant parce que ça montre qu'il n'y a pas d'opposition entre, d'un côté, les activistes animalistes et, d'autre côté, le reste de la population, en particulier les agriculteurs. Et très souvent, on va opposer les bobos véganes, déconnectés des réalités. Et puis, il y avait à un micro-trottoir quelqu'un qui s'est défini comme un connard banal qui ne s'interrogeait pas sur ses pratiques. On est tous des connards banals, hein, soyons rassurés ou pas. Mais... Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir que la plupart des activistes, moi, que j'ai rencontrés, viennent de ces milieux-là. Moi la première, et c'est justement parce qu'il est plus difficile d'avoir de se cacher la réalité des violences quand on les a vues. Donc par rapport à ce qu'il porte, et il a raison, c'est compliqué, mais il y a tout un travail d'accompagnement à la transition, il y a tout un questionnement à avoir sur notre système d'exploitation, de production, mais je pense qu'on peut avoir un horizon qui soit un horizon de déconstruction de ce rapport aux animaux.
Catherine nous dit on ne peut que regretter qu'il soit interdit de faire du mal à un chien ou un chat, mais que la torture d'un renard ou d'un blaireau n'émeuve pas le législateur.
Alors, c'est illégal aussi, hein, pour les animaux dits sauvages, mais elle a raison, on va avoir une application différenciée en fonction de notre classification d'animaux, où il y a d'un côté les animaux dits domestiques qui sont proches de nous et qu'on protège un peu, comme soit la famille, si on veut être très optimiste, soit une forme de propriété, hein, puisqu'on a encore un statut ambivalent, et puis les animaux dits sauvages.
Eh bien, on a un message de Bernard qui, lui, nous parle de poissons.
Bonjour, un poisson est un animal, doit-on se priver d'en manger ? Ce qui ferait du tort à des milliards de personnes qui n'ont rien d'autre à manger. Bonne journée.
Réjeanne Sénac. D'ailleurs, dans votre livre, vous citez aussi des associations comme Bloom, hein, qui s'occupent de la question de la pêche industrielle.
Tout à fait, dans le croisement d'ailleurs de la question animale et de la question écologique, hein, pour Bloom. Là, dans la question, ce que j'entends, alors ça me permet de dire que c'est les animaux, c'est les poissons, hein, qui sont les plus abattus dans le monde, hein, de manière très, très privilégiée. Mais ce que ça pose comme question, c'est la question du contexte. Hein, et bien entendu que cet enjeu, en termes de santé, il est à poser en fonction de là où on habite. Dans le même moment, il y a une vision très occidentale, hein, quand même, hein, du fait que pour avoir un repas équilibré, il faut avoir
des protéines animales.
40% des Indiens sont végétariens. En Amérique latine, avant l'influence de la colonisation et de l'élevage qui a été complètement amené par les colons, on avait des repas équilibrés sans protéines animales.
Pascal nous dit un immense merci, on terminera avec ça pour cette émission. La condition animale est si peu abordée, je participe à beaucoup d'actions, manifestations, rassemblements et je constate que la majorité des personnes présentes, surtout des militantes très frileux, voire évitent ce sujet, c'est presque tabou. Et pourtant vous en dites, Réjeanne Sénac, que c'est le sujet du siècle pour vous, la question animale ?
Moi, je pense que c'est le sujet du siècle parce que c'est le sujet qui nous permet de mettre à l'épreuve notre conception de choses fondamentales, donc notre rapport à la justice, à la violence, à l'amour. Et donc, moi, je crois qu'il faut qu'on se fasse confiance et qu'on soit très courageux sur ce sujet comme sur tous les autres.
Merci beaucoup pour cette conclusion. Je renvoie sur votre ouvrage qui paraît chez Stock, Par effraction,
rendre... Philosophie Magazine aussi,
Stock. Et Philosophie Magazine, Par effraction, rendre visible la question animale. Merci beaucoup d'être venu à notre micro.